Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Alors qu'avez-vous retenu de l'interview donnée par Emmanuel Macron à TF1 mercredi soir? Est-ce qu'il était utile pour le chef de l'État de faire un bilan de son action à 4 mois de l'élection présidentielle?
Oui, alors c'était une interview qui était importante, et pour moi qui était un exercice maîtrisé par le président de la République. L'idée c'était évidemment de rendre des comptes aux Français à cette étape du quinquennat qui était importante, et surtout dans le contexte dans lequel se situe notre pays, notamment avec la relance économique, mais avec la reprise de l'épidémie, les doutes qui s'installent et les difficultés qu'on a pu connaître ces derniers temps. Maintenant, l'objectif, c'était évidemment de faire le bilan de son quinquennat, présenter son quinquennat d'action et de transformation, son quinquennat de protection, et d'être au contact des Français et de leur expliquer en quoi l'action, la vision qu'il a pour la France était dans l'intérêt des Français, et expliquer autour de deux journalistes et dans une heure sur une chaîne importante.
Le président n'a pas annoncé sa candidature, mais il a exprimé la volonté de projeter le pays à 10 ans. En octobre, Emmanuel Macron a présenté le plan d'investissement France 2030, un plan ambitieux qui concerne les nouvelles technologies, le nucléaire, l'hydrogène, la culture, l'aventure spatiale. On ne peut pas transformer la France en 5 ans, il faut se projeter sur un temps plus long.
Alors, effectivement, le président avait présenté sa vision sur 2030. La réalité, c'est que dans le monde dans lequel on vit, dans le monde économique, culturel, social, dans lequel on vit, qui évolue énormément, on a forcément l'obligation de s'adapter à toutes ces mutations-là. Et la vision de France 2030, en tout cas le message qu'il a essayé de passer hier également dans son interview, en disant que la France était le pays de tous les possibles, c'était également de donner la confiance aux Français, qui parfois peuvent douter de ces mutations, de ces changements qui sont très rapides, et également de partager sa vision à lui, à la vision qu'il a pu mettre en place sur 5 ans, mais une vision pour un pays ne peut pas être limitée dans un quinquennat ou dans un mandat politique. Donc c'est pour ça que même s'il n'est pas candidat et qu'il n'a pas déclaré, et que nous on souhaite vraiment qu'il soit candidat parce que l'œuvre qu'il a entrepris n'est pas achevée pour nous, pour le pays, il a partagé avec les Français sa vision de l'avenir, du futur de notre pays, parce que les actions et les choix politiques qui sont faits aujourd'hui ont des impacts évidemment pour aujourd'hui, mais ils ont des impacts évidemment vers les futures générations, vers la jeunesse de notre pays, et c'est en quoi c'était intéressant. Et moi, en tant que personne se prétendant jeune, j'ai été particulièrement touché de cette vision à moyen et long terme pour notre pays.
Alors vous parlez de la jeunesse, Ergun Toparslan. Parmi les sujets qui pour Emmanuel Macron ont été une réussite de son quinquennat, il y a l'éducation. Il a cité l'école obligatoire à partir de 3 ans, les classes dédoublées dans les zones d'éducation prioritaire et l'augmentation du nombre d'apprentis. Reste que pour les étudiants, il y a un manque de places criant dans de nombreuses filières. Il y a aussi la plateforme Parcoursup qui est ultra sélective. Ce sera un des enjeux du prochain quinquennat.
Clairement, après ce qu'a dit le président, et nous, le constat qu'on partage, c'est que c'est une révolution qui a été mise en place en France avec le nombre d'apprentis. Pendant très longtemps, on était pas jaloux, mais on montrait l'Allemagne en exemple. Aujourd'hui, en France, on les a rattrapés en nombre d'apprentis. C'est une véritable mutation également qui a un impact économique, parce que nos entreprises sont préparées à ça, elles ont confiance en nos filières de formation, elles ont confiance en nos apprentis. Donc en ça, la révolution, elle a été enclenchée. Mais votre constat est tout à fait juste et on le partage. En tout cas, on souhaite faire des propositions également, dans le débat, parce que le président de la République, notamment dans la crise sanitaire qu'on a connue, a mis en place un accompagnement fort de nos étudiants avec le repas à 1 euro, avec également l'accompagnement pour la tenue des cours à distance. Aujourd'hui, on constate également que évidemment le souci de notre pays est, les résultats des politiques qui ont été menées pendant très longtemps ont fait que notre filière universitaire, notre université a beaucoup de retard, vit énormément, que ce soit en termes d'infrastructure, de mobilier, d'immobilier, mais également en termes de contenu. Et pour des enfants de la République qu'on est, on sait que l'élévation sociale, ça passe essentiellement, majoritairement par l'éducation, pardon, et par l'enseignement supérieur dans notre pays. Et donc c'est un débat qu'on veut mettre au centre, plutôt que de parler d'identité, de couleur de peau, de religion, qu'on parle de l'excellence française et Encore une fois, ce que je vais me répéter, mais dans ce pays qui est le pays de tous les possibles, notre université aussi doit pouvoir permettre à ce qu'on atteigne l'excellence dans tous les domaines dans lesquels on y intègre.
Ergun Toparslan, dans l'émission, Emmanuel Macron a lu une lettre écrite par des enfants d'une école primaire qui évoquait l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, une lettre signée par des enfants dont les prénoms reflètent la diversité de leurs origines. C'est un passage qui vous a touché ?
Particulièrement parce que bon, mon prénom, Ergun aussi, je viens d'une immigration qui vient de la Turquie. Je me suis intégré, élevé, je suis en France grâce à l'école républicaine, et c'est sûr que d'un point de vue personnel et pour beaucoup de personnes que je connais, les débats qu'essaie de mettre en place la droite extrême et l'extrême droite sur nos identités, sur nos prénoms, ça nous dépasse, et il y a beaucoup beaucoup de Français, la grande majorité des Français, qui sont dépassés par cela, parce qu'on a passé cette étape là l'identité, c'est pas ce que uniquement ce qu'on est, le prénom qu'on a, mais c'est plutôt ce qu'on fait et ce qu'on veut être et comment on veut se projeter dans ce pays. Et effectivement, ça a touché beaucoup de monde. Moi, ça m'a touché personnellement aussi. C'était un moment un peu d'émotion, mais on n'a jamais douté de la vision du président de la République. On n'a jamais douté du fait que pour la majorité présidentielle, pour les élus de la majorité présidentielle, le président de la République, c'était pas des sujets. Mais on est également conscient du danger que peut peser quand on ramène systématiquement le débat public sur des sujets de ce type-là. Et voilà, c'est là la vraie différence qu'on a pour ceux qui en doutaient. On va pas tomber dans ce piège-là, on va pas tomber dans le piège de l'identité, de la religion ou du prénom. On veut une autre vision pour une autre France, parce que nous, on pense qu'elle est grande dans sa diversité, elle est forte dans sa diversité, et cette diversité n'est pas une faiblesse pour la France.
Ergun Toparslan, sans le nommer, Emmanuel Macron s'est attaqué aux propositions d'Éric Zemmour qui souhaite une immigration zéro. Il a critiqué la théorie xénophobe du grand remplacement. Il dit qu'il n'y croit pas, mais en même temps, il souhaite une réforme de l'espace Schengen. Vous qui venez de la gauche, est-ce que ça vous pose problème que le président Macron souhaite finalement protéger nos frontières extérieures communes, en clair, lutter contre l'immigration ?
Non, ça ne dérange pas, parce que dans l'absolu, quand on voit pas l'immigration uniquement comme un danger, mais qu'on s'attaque à ses causes, en venant de l'école rocardienne qui disait que la France prendra sa part évidemment de l'immigration, mais ne pourra pas supporter à elle seule, il faut qu'on ait également qu'on s'attaque à ces fameuses causes de l'immigration. Aujourd'hui, quand le président dit ça, il dit également que il a une volonté de faire du co-développement avec les pays dont les immigrés sont originaires. Il perd pas également de vue que il y a une autre immigration qui va nous tomber dessus, le pouvoir va nous tomber dessus, mais qu'on va subir, qui sera beaucoup plus important, qui est l'immigration écologique. Et il faut évidemment s'attaquer à toutes ces causes de l'immigration. Personne ne part de son pays d'origine, de son pays natal, par gaieté de cœur, par coquetterie. Ce sont des effets économiques, des immigrations économiques, souvent également politiques et humanitaires, qui sont la cause de cela. Aujourd'hui, dire que l'immigration sera zéro, ça n'existe pas. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, et dans le pays des droits de l'homme, on a beaucoup de personnes qui sont opprimées dans leur pays, qui viendront demander l'asile politique, et ça sera l'honneur de notre pays de le prendre en charge. En plus de ça, se couper du monde en mélangeant un peu tout entre l'immigration, le tourisme, parce que d'un côté, ils sont contre l'immigration, mais le tourisme des personnes venant des pays du Moyen-Orient, ils sont pas contre, à condition de dépenser leur dollar chez nous. Mais voilà, tout ça pour dire que le président de la République a conscience de ça, a conscience que cela lève une préoccupation chez certains Français, mais également ne veut pas tomber dans la caricature avec des réponses qui sont basiques et de niveau zéro. Protéger nos frontières, évidemment, parce que il faut pas perdre de vue également qu'il y a beaucoup de passeurs et d'une certaine mafia qui joue sur la misère des gens, qui met en difficulté beaucoup de personnes sur le dos de leur misère. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience également que on peut pas être non plus dans l'attentiste face à ces situations-là, et qu'on comprenne pas les devants sur cette situation humanitaire que notre pays ne peut pas accepter, quoi.
Ergun Toparslan, est-ce qu'il faut que la classe politique dans son ensemble dénonce plus fortement les propositions d'Éric Zemmour, comme l'expulsion des chômeurs étrangers, l'arrêt du regroupement familial ou l'arrêt des aides sociales non contributives ?
Évidemment, sauf que ça nécessite du courage. Malheureusement, la classe politique en manque. C'est vraiment un sujet qui est très dangereux et très important pour nous. Donc il faut le dénoncer, il faut montrer que c'est caricatural. Nous, ce sont des propos qui auraient choqué beaucoup de monde il y a quelques temps, mais maintenant ça passe également dans les médias. Après, il faut qu'ils comprennent aussi que il y aura toujours des républicains qui sont des vrais républicains qui seront face à eux quand ils vont tenir ce genre de propos. Ce qui nous inquiète également, c'est que la droite traditionnellement républicaine tombe également dans ce piège-là, avec notamment des idées d'Éric Ciotti, de Guantanamo à la française, des propositions de Valérie Pécresse qui veut mettre en place des délits qui seraient plus importants en fonction du lieu où on vit, où on les commet. C'est complètement délirant, c'est anticonstitutionnel, c'est anti-valeur de la France, c'est anti-valeur républicaine. Mais ça passe en 2022. C'est pour ça qu'on dit que on n'est pas à l'abri d'un accident démocratique. Nous, on veut faire barrage à cela. On veut porter également une autre vision de la France et combattre ces idées-là sur tous les plateaux, sur tous les terrains. Mais on constate également que la classe politique aujourd'hui n'est pas suffisamment armée. La situation de la gauche est très inquiétante pour nous. C'est pour ça que nous, venant de la gauche, on trouve que le meilleur espace pour combattre ces idées-là, c'est au sein de la majorité présidentielle. Et surtout quand on voit que la droite aussi est dans une fuite en avant sur ses idées, c'est très inquiétant. Voilà, c'est derrière les sondages, c'est derrière une fausse popularité que la classe politique ne se rend pas compte du danger et de la menace que cela représente pour notre pays.
Ergun Toparslan, à propos de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty et de l'islamisme, Emmanuel Macron a déclaré, je cite, « Il faut convertir les esprits, c'est un combat culturel, civilisationnel ». Comment parvenir concrètement à cet objectif ?
C'est un objectif très compliqué, évidemment. Pourquoi ? Parce que derrière l'idéologie islamiste, en fait, il faut opposer à cela une autre idéologie, l'idéologie républicaine, l'idéologie laïque, mais qui mettrait pas une partie de la population en dehors de la République et de la laïcité. C'est là le vrai danger, c'est là la bataille culturelle. En fait, c'est un combat, c'est un travail de fond qu'il faut mener, mais c'est également un travail de terrain, un travail de pédagogie, un travail universel pour que chacun puisse se ressentir dans ce combat-là. Il n'est pas facile parce que en face, le camp islamiste a plusieurs bras, a des bras évidemment politiques, a des bras religieux, idéologiques, et mène ce travail-là. Mais pour autant, il faut avoir confiance, il faut croire profondément au modèle républicain qui nous anime, au modèle laïque, et surtout ne pas prendre ce modèle-là pour mettre en dehors de cela, du champ républicain, une grande partie de notre population qui est musulmane et qui se retrouve pas dans les thèses islamistes, qui ne peut pas tomber dedans. Mais l'idée, notre idée, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas attirés, ils se retrouvent, que leur situation, que ce soit sociale ou autre, ne soit pas un prétexte à ces gens-là pour venir imposer certaines idées et aller chercher l'appui et la force de ces gens-là. Donc c'est un combat de longue haleine, c'est un combat républicain, et c'est un combat qu'on mènera jusqu'au bout parce que voilà, Samuel Paty est victime de cela, on veut pas qu'il y en ait d'autres, et en tout cas on fera tout pour que cela ne se reproduise plus dans notre pays.
Emmanuel Macron a voulu faire de la pédagogie sur l'usage des réseaux sociaux ou la prise de parole de certaines personnes sur les chaînes info. Il a dit en substance que toutes les paroles ne se valent pas. Il y a des paroles de députés, de médecins, par exemple sur la crise sanitaire. Je me rappelle qu'il avait déjà dit cela lors du grand débat. Comment interprétez-vous cette séquence de l'interview d'Emmanuel Macron ?
Encore une fois, c'est une prise de hauteur du président de la République, et je pense que on en a tous un peu besoin pour faire beaucoup de plateaux, beaucoup de débats. Et ce qu'on constate également, c'est que à force de trop banaliser, à force de se lancer dans des expressions, dans des prises d'opposition un peu trop radicales, sans donner le temps, sans mettre en place le doute, sans donner le temps au travail, et on constate que en fait la parole scientifique, la parole politique, la parole de l'élu est forcément systématiquement mise en cause. Et les réseaux sociaux dans les informations, dans les fake news qui peuvent le relayer, ont un rôle important là-dessus. Donc soit on tombe dans ce piège-là et c'est un domaine qu'on maîtrise pas du tout, et là ça peut mettre en danger la démocratie. Il y avait un sondage qui montrait que les Français s'inquiétaient pour l'avenir de la démocratie. Et toutes ces choses-là, quand on met systématiquement en cause la parole du spécialiste, la parole de l'expert, la parole du politique, de l'élu, ça pose un grand problème. Donc tous les politiques ont la responsabilité là-dessus aussi. Ça veut dire aussi que quand on prend la parole et quand on s'exprime sur certains sujets, on peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Il a tout à fait raison là-dessus. Et d'un autre côté, c'est aussi une vigilance, un appel à vigilance à l'ensemble de nos concitoyens, de prendre le temps du doute, de prendre le temps du travail pour aller regarder si tout ce qui est exprimé sur un plateau, sur des personnes qui se disent experts, dans tel ou tel domaine soit réellement basé ou pas. Mais c'est un des combats de l'époque, c'est une des batailles de l'époque, et je pense que ça va avoir un impact politique lors des prochains scrutins si on n'est pas vigilant sur tout ça.
Ergun Toparslan, j'aimerais revenir aussi sur une phrase du président Macron qui a été peu commentée. Ce qui nous affaiblit, c'est quand on croit qu'on a surtout des droits. Il a parlé du danger de l'individualisme. Les Français ne sont pas assez conscients de leurs devoirs ?
Non, mais au-delà de l'aspect franco-français, c'est un sujet, je pense, de l'époque. Aujourd'hui, on est... dans tous les domaines dans lesquels on peut agir, confronté à cette poussée de l'individualisme, cette notion de collectif disparaît de plus en plus. C'est aussi lié à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette fameuse bataille culturelle où le collectif a du mal à être identifié par beaucoup d'individus. C'est pour ça que soit on se rétracte dans des petits groupes qui nous ressemblent, ça peut être des petits groupes sociaux ou bien même ethniques, ce qu'on appellerait le communautarisme. Mais à côté de ça, c'est aussi ce manque de projet collectif. Il faut redonner un élan à notre projet républicain, il faut le réexpliquer et surtout le faire vivre. Parce que concrètement, aujourd'hui, ce qui manque, c'est quoi ? C'est que quand on parle de projet républicain, il y a beaucoup de personnes pour qui ça représente... Ça n'a pas marché, en fait. Il y a plein de raisons à cela. Maintenant, notre vision et notre combat doit être en sorte de faire réanimer cette flamme républicaine, cette flamme collective. Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que au-delà de la France, mais à l'échelle européenne et mondiale, on est dans une poussée de l'individualisme extrême, dans une poussée de cette société de consommation extrême qui fait que chacun, à travers son smartphone, sa vie digitale et personnelle, a du mal à se projeter, à mettre du commun, du lien dans sa vie. Et c'est un vrai danger parce que on peut se retrouver à être une sommation d'individus ou de petits groupes, et on se retrouverait pas à créer un sens collectif, un sens commun, une vie qu'on partage ensemble, parce que chacun ne vit pas tout seul dans son appartement ou dans sa chambre ou dans son studio. On a à un moment donné des interactions à avoir avec notre entourage, notre société, notre pays, et le plus important, c'est de donner un sens à cette interaction-là. Et c'est en ça que le combat politique est important, et plutôt que de parler de sujets, comme j'ai tout à l'heure, d'identité, d'ethnie ou autre, de pointer d'autres problèmes en trouvant des explications un peu foireuses, le politique doit se pencher sur ce sujet-là. Quel est le sens commun, quel est le collectif, quel est le projet républicain qu'ils veulent proposer aux Français?
Et ce sera le sens de votre travail dans les semaines et les mois qui viennent au service du futur candidat Emmanuel Macron?
C'est ça, c'est un engagement politique que j'ai mené de longue date, tout d'abord dans différentes organisations politiques, et maintenant l'expression politique qui permet le plus de l'affirmer, c'est dans la majorité présidentielle avec le président de la République. Mais ça va pas être un combat facile, donc c'est encore une fois pour beaucoup de personnes qui s'inquiètent de cette dérive du débat public. Voilà, je les invite à s'engager évidemment également à leur côté au sein de la majorité présidentielle, mais également dans le champ républicain pour que le débat puisse vivre et qu'on puisse prendre un peu de hauteur, parce que la pente qu'on est en train de prendre peut être très dangereuse.
Merci Ergun Toparslan. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès. Bonsoir.
Merci beaucoup, bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.